Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Christian Straka est né à Montreuil-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il a débuté sa carrière en tant qu'instituteur en 1985, après 3 ans de formation à l'école normale, puis a été directeur d'école de 2006 à 2012, date à laquelle il est devenu AFTIS. Cette appellation est devenue aujourd'hui ERUN, qui signifie enseignant référent aux usages du numérique. Christian habite Villemomble et travaille à Aubervilliers et La Courneuve, 3 villes situées en Seine-Saint-Denis. Lorsqu'on lui demande de résumer sa perception du métier, il répond que ses principaux objectifs sont de ne jamais s'ennuyer et faire en sorte que ses élèves ne s'ennuient jamais. En devenant ERUN, Christian a fait le constat d'être considéré comme formateur sans en avoir ni le statut ni l'indemnité. En 2012, les ERUN n'en percevaient aucune. C'est donc naturellement qu'il s'est rapproché de l'AFTRN, l'Association des formateurs TIS, Réseau National, association dont il devient le président en juin 2016. Quelques mois plus tard, avec d'autres collègues, il rencontre Najat Vallaud-Belkacem au Salon Educatis à Paris. Après un bref exposé de la situation des enseignants TIS, la ministre s'engage à faire en sorte que cela change et ce fut le cas. À partir de la rentrée 2017, tous les enseignants affectés sur des missions TIS sont devenus des ERUN et ont perçu une indemnité pour mission particulière. Depuis cette date, la FTRN est régulièrement en contact avec les membres de la direction du numérique éducatif, rue de Grenelle. Christian rappelle que le premier confinement a démontré que les ERUN étaient importants et que le ministère en a pris conscience, mais il déplore que le temps politique ne soit pas en phase avec celui du terrain. Christian Straka, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez du premier outil numérique que vous avez utilisé dans le cadre de votre métier d'enseignant ?
Oui, car j'ai débuté au moment du déploiement de l'informatique pour tous avec l'arrivée des Thomson TO7, MO5 dans toutes les écoles. Une belle période où justement toutes les écoles de France avaient été équipées d'outils numériques. Et d'ailleurs, à l'école normale, j'avais déjà pris la filière musique et informatique et j'avais déjà un pied dedans sans savoir qu'un jour je deviendrais formateur au numérique. Donc c'est une très belle période. Et il n'y a pas si longtemps que ça, un élève devenu adulte, bien évidemment, sur Twitter m'a dit qu'il se souvenait de mes leçons d'informatique, alors que bien évidemment, je ne faisais pas que ça à l'époque, mais c'était le souvenir que je lui avais laissé.
Quel regard portez-vous sur votre enfance ?
Ah, sur mon enfance, j'ai plutôt été une enfance heureuse, et avec beaucoup de camarades, et à une époque où effectivement l'école était encore un ascenseur social, contrairement aujourd'hui.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ?
Je pense que c'est la classe de neige. Hein. Ça reste un excellent souvenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait de nombreuses classes de découverte avec mes élèves par la suite.
Plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent ?
Justement, un adolescent un peu, je dirais pas rebelle, mais n'acceptant difficilement de s'ennuyer en classe. Et lorsque j'ai appris à mes camarades que j'étais devenu instituteur, certains ils ont été nombreux à sourire car ils disaient, toi, instit, avec tout ce que tu as fait subir aux profs, voilà. Mais c'était à chaque fois, bien évidemment, les professeurs que je trouvais pas à la hauteur. Je veux dire, ça ne changera jamais, hein. Aujourd'hui, là aussi, certains enseignants sont malmenés, d'autres sont respectés, et je pense que au départ, tout est lié avec les liens qu'on peut tisser avec les élèves.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu instituteur pour devenir l'instituteur que vous auriez aimé avoir?
Ah, au niveau instituteur, on va dire que j'ai plutôt eu la chance d'avoir de très bons instituteurs et tous motivés. Et à cet âge-là, j'avais pas trop non plus un regard. C'est plutôt au lycée que, on va dire, que je me suis rebellé contre l'institution, à l'école normale aussi, malheureusement pour certains professeurs. Mais non, je pense que c'est par goût de la transmission du savoir.
Prof, etc.
À quel moment de votre carrière est-ce que vous avez pris conscience des enjeux qui se trouvaient derrière l'avènement du numérique?
Ouf, alors là, prendre conscience des enjeux, je ne sais pas si j'ai eu cette conscience un jour. Le numérique m'a toujours intéressé, hein, comme je viens de le dire dès le départ. L'outil numérique m'a intéressé aussi bien dans l'enseignement que personnellement. Et puis, une occasion s'est présentée pour devenir formateur au numérique, et donc j'ai continué dans cette voie, et c'est dans cette voie que je vais terminer ma carrière. Mais vraiment, avoir conscience des enjeux, je ne sais pas si je suis allé jusque-là.
Alors la mission des ERUN comporte différents volets, dont un qui est purement pédagogique. Dans quel cadre, au pluriel, intervenez-vous auprès des élèves?
Alors justement, l'avantage des IRON, c'est que nous accompagnons les enseignants dans leur classe directement. Si un enseignant a un projet, nous pouvons venir l'aider dans sa classe, le rassurer. Et bien évidemment, en général, avec ses élèves. Et c'est ce qui est la formation idéale à un outil numérique. On n'est pas hors sol. On accompagne l'enseignant dans sa classe, en situation réelle. C'est-à-dire qu'on ne propose pas. Alors, on propose aussi lors de formation des situations complètement artificielles où les enseignants jouent le rôle d'élève. Mais là, lorsqu'on va en classe, c'est la situation idéale. Et bien évidemment, l'enseignant peut pas dire, ah bah oui, toi, tu y arrives parce que t'es un véritable geek. Là, il n'y a pas les élèves, tout va bien. Ben non, c'est dans sa classe, avec ses élèves, et c'est lui-même qui mène la séance. Nous sommes là juste pour le rassurer.
Alors un autre volet concerne l'accompagnement et la formation des enseignants. Cette mission s'est montrée essentielle lors du premier confinement et de très nombreux collègues ont pris conscience de tout le potentiel qui existait derrière les outils numériques. J'imagine que vous comptez profiter de ce constat pour porter quelques revendications. Alors, votre micro est ouvert. Qu'est-ce que vous dites à Jean-Michel Blanquer, notre ministre?
Bah, ce que je dis à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est qu'effectivement, le rôle des IRON est très important et que malheureusement, même si nous sommes officiellement formateurs, nous ne sommes pas reconnus par ce titre. Et donc, c'est un peu absurde. Nous passons notre temps à être formateur, on forme même nos supérieurs hiérarchiques, mais sans officiellement être validé en tant que tel par l'éducation nationale, alors que la majorité des IRON est titulaire du CAFIPEMF, une certification qui prouve qu'ils sont bien formateurs, mais même du coup, ils ne sont que qu'IRON et ne touchent aucune indemnité liée à la fonction de formateur. Donc c'est un peu une absurdité, surtout au XXIe siècle. Et avec l'importance du numérique, et c'est ce que et en plus dans tous les plans de formation dans le premier degré, il n'est prévu aucune formation aux outils numériques. C'est maths et français, même si le numérique n'est pas une matière, il serait aussi intéressant de dire que il est prévu quand même un temps d'appropriation aux outils numériques, par le biais toujours de la pédagogie, bien évidemment. On va pas faire de la technique pour de la technique.
Alors aujourd'hui, l'État vient d'annoncer un plan de relance avec un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, en mettant sur la table une enveloppe de 105 millions d'euros, le but étant de réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture numérique. En quoi va consister ce plan et êtes-vous associé en tant qu'ERN à sa mise en œuvre?
Ah, il est bien évident que c'est un dossier qui a tout de suite été attribué aux ERN dans les circonscriptions. J'aurais un regret sur ce plan, et il est dans sa formulation, c'est que les écoles maternelles en sont écartées, alors que justement, dans les écoles maternelles, c'est le désert numérique. Et je pense que c'est bien regrettable de les avoir écartées de ce plan. En général, en élémentaire, c'est pas si mal que ça. Et autre défaut, mais après je parlerai des qualités de ce plan, c'est que si les écoles sont déjà équipées, on ne peut pas, les villes ne peuvent pas s'inscrire pour toucher une subvention leur permettant de renouveler le matériel. Et dernier point, il est aussi possible de s'inscrire dans ce plan pour non pas pour des outils, mais des supports, des logiciels ou l'abonnement à un ENT. Mais là aussi, c'est lié à l'achat du matériel. Donc, c'est bien dommage que ça soit lié à du matériel et pas seulement dire, bah voilà, telle ville a déjà équipé ses classes, mais un espace numérique de travail, ça coûte de l'argent. Et j'aimerais bien être subventionné pour finir l'équipement de ma ville, mais malheureusement là c'est lié à du matériel et comme il y a déjà du matériel dans la classe, ça devient très compliqué. Par contre, l'aspect positif de ce plan, c'est qu'effectivement les villes qui n'ont pas du tout équipé leurs écoles faute de moyens vont pouvoir bénéficier d'une très belle subvention. Voilà, je veux dire là c'est pas l'investissement est assez important, je trouve aussi que pour la toucher, c'est très compliqué et le délai assez court. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes qui vont pouvoir en bénéficier, car après se rajoutent les complications administratives liées à ce plan. Mais nous sommes en France et l'administration est malheureusement assez lourde.
Alors concrètement, quel est le rôle des ERN dans la mise en œuvre de ce plan ?
Alors concrètement, les ERN, justement, et c'est même en dehors de ce plan, c'est l'un des aspects de notre fonction, c'est de conseiller les villes dans l'achat de matériel. Lorsqu'une ville décide d'équiper, le plus souvent, elle nous demande, et nous sommes force de conseil, même si on n'est pas toujours écouté. Donc tout dépend bien évidemment des municipalités, mais en général, voilà, c'est de dire, il existe une multitude de tablettes. Quelle est celle qui va correspondre au terrain? Parce que bien évidemment, nous connaissons bien le terrain. Les ordinateurs, c'est pareil. Le but, c'est justement d'aider les municipalités à acheter le matériel qui va être le mieux utilisé, qui correspondront aux attentes des enseignants. C'est l'avantage de notre métier, c'est que comme nous sommes régulièrement en contact avec les enseignants, nous savons ce dont ils ont besoin. Parfois, justement, il y a un décalage avec les municipalités qui, lors d'équipements, veulent aussi que ça soit une vitrine, mais les enseignants, souvent, veulent du matériel. Ça va pas être clinquant dans le bulletin municipal, mais bien utilisé par les enseignants, parce que souvent, si on équipe une école d'un matériel trop compliqué et inadapté aux besoins des enseignants, ça coûtera très cher à la municipalité, mais ça ne sera pas obligatoirement beaucoup utilisé.
Prof, etc.
Dans cette société digitalisée que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore enseigner sans le numérique, Christian ?
Alors, je dirais oui, parce que malgré tout, le retour sur papier, la réflexion sur, à partir d'une feuille est très important. Donc je pense que le 100% numérique est une aberration, même aujourd'hui, et de la même manière que le 0% dans une classe est une aberration. Il faut trouver le dosage entre les deux, et parce que l'être humain est comme ça, et qu'on fait, je veux dire, certaines choses sont beaucoup plus rapides à faire numériquement. Je veux dire, rechercher dans un dictionnaire... Voilà, par exemple, je vais donner un exemple. Alors, je vais peut-être faire hurler certains qui écouteront mon discours. Aujourd'hui, savoir rechercher un mot dans un dictionnaire, je trouve papier, je trouve ça complètement absurde de passer du temps à faire, quand je vais dans certaines classes, j'ai vécu ça lorsqu'une enseignante, justement, utilisait un traitement de texte avec ses élèves. Et bien évidemment, un élève, à un moment donné, un mot s'est souligné en rouge. Et la maîtresse lui a conseillé d'aller au fond de la classe chercher le dictionnaire. Donc j'ai demandé à l'enseignante, mais je lui ai dit, tu fais ça toi quand un mot se souligne en rouge dans le traitement de texte? Elle dit, non, je fais un clic droit et puis je regarde la solution qui m'est proposée. Je lui ai dit, lui il a 8 ans, faut peut-être lui proposer la même solution. Voilà. Voilà un exemple flagrant.
Oui. Alors, tout à l'heure, vous vous réjouissiez du rôle que vous pouviez jouer en tant qu'Erun dans les classes, au contact direct des enseignants et des élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple en élémentaire et en maternelle d'une classe TIS, je crois qu'on appelle ça comme ça, que vous pouvez mettre en place?
Alors, malheureusement, en maternelle, comme je l'ai signalé, y a très rarement d'équipement. Le plus souvent, les enseignants vont faire de la récup, récupérer des ordinateurs pour les mettre dans un coin. Et donc là, je passerai moi dans la classe installer des logiciels adaptés au niveau des élèves, mais il n'y a pas réellement d'accompagnement à ces outils. Donc en maternelle, malheureusement, il y a juste une exception sur une de mes circonscriptions où, par chance, dans leur bibliothèque, elles ont eu la possibilité, parce que juste à côté il y a une école élémentaire, d'avoir un tableau numérique. Et donc, j'ai pu faire une formation aux enseignantes, mais j'ai jamais, malheureusement, certains collègues ont cette possibilité, parce que ce n'est pas généralisé sur toute la France, certains équipent les écoles maternelles, mais en ce qui me concerne, j'ai jamais pu accompagner d'école maternelle à l'utilisation d'outils numériques. Et en élémentaire, par contre, tout dépend de l'équipement de la municipalité et de l'envie des enseignants. Donc là, par exemple, je vais avoir beaucoup de travail prochainement, puisque sur la ville de La Courneuve, il va y avoir 3500 tablettes qui vont être déployées dans les écoles. Et donc là, il va y avoir de l'accompagnement pour qu'effectivement, cet outil soit bien utilisé avec les élèves. Donc en élémentaire, c'est très variable. Ce serait trop long d'expliquer ça maintenant, les projets des enseignants sont différents, les enseignants sont différents, et donc l'accompagnement à chaque fois étant personnalisé, ce serait trop compliqué, mais bien évidemment, le but de l'IRON, c'est de ne pas être là tous les vendredis et d'être la jambe de bois de l'enseignant qui n'y parvient pas, mais au contraire, très rapidement, lui faire prendre conscience que l'outil numérique doit se faire oublier derrière la pratique pédagogique.
C'est un peu à ça que je pensais en parlant du numérique en maternelle. J'ai pu voir des situations dans certaines classes maternelles de mise en place de web radio, par exemple. Ça ne nécessite pas un équipement de folie. On peut commencer à obtenir des résultats avec simplement un smartphone ou une tablette et une connexion Internet. Et j'ai l'impression que cet aspect de la radio, du podcast, est quelque chose d'émergent actuellement qui pourrait peut-être satisfaire des enseignants de maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce qu'en plus, la pratique de l'oral, c'est une entrée ensuite pour l'écrit. Et de trouver des situations dynamisantes à travers l'oral, c'est très intéressant. On n'est peut-être pas obligé de passer tout de suite à la web radio. Il y a aussi des micros qui peuvent permettre de faire des choses, car malheureusement, dans la majorité des écoles maternelles, il n'y a pas de connexion Internet, à part dans le bureau de la direction d'école. Donc c'est très compliqué. Donc certains enseignants passent le cap et se disent bah c'est pas grave, je vais faire un partage de connexion avec mon smartphone et voilà, mais la majorité trouve pas ça normal, alors que bien évidemment c'est inscrit dans les programmes de l'école maternelle, mais les municipalités pour l'instant sont encore frileuses.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison?
Oh là, bah malheureusement, je crois que je vais être incapable de répondre à ça. Je vois pas. Peut-être dû à la conjoncture actuelle, je vois pas du tout.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel?
Oh, moment préféré de ma journée. Bah, ça va être un peu absurde, j'aime bien me lever à cette bonne heure, donc en général, même le week-end, je suis un lève-tôt et j'aime bien me lever de bonne heure.
Ouais. C'est drôle parce que vous êtes mon 32 ou 33e invité, et quand je pose cette question, j'ai toujours deux réponses principales, c'est le matin ou le soir. Mais j'ai peu de gens qui trouvent un moment satisfaisant ou particulièrement agréable en cours de journée. C'est étonnant, je ne m'attendais pas à ça.
Bon, moi je suis dans la norme alors.
Oui, absolument. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous?
Quelle valeur? Oula! Grande question. Je pense que c'est l'honnêteté, aussi bien l'honnêteté intellectuelle que l'honnêteté en général. Voilà. Ne pas mentir en n'importe quelle occasion, que ça soit en classe, que ça soit en formation. Voilà. L'honnêteté. Dire ne pas prendre les gens pour des imbéciles et leur annoncer clairement et ne pas se mettre derrière un masque, même si c'est d'actualité, et derrière un paravent.
Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot enseigner?
Eh ben, je dirais aimer. C'est-à-dire que aimer son métier et aussi aimer être avec des élèves pour les tirer le plus possible vers le haut, peu importe à quel niveau ils en sont.
Prof, etc.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
Je dirais ma réactivité et peut-être aussi... alors c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure en préambule dans mon adolescence. Je n'ai pas peur de la hiérarchie. Et aujourd'hui, en tant que président... de l'association des formateurs au numérique, ça me rend bien des services car je ne suis pas impressionné lorsque mon interlocuteur a plus de diplômes que moi ou occupe une fonction nettement plus importante que la mienne, et j'arrive à être très à l'aise face à cet interlocuteur. Donc je pense que c'est ça, c'est voilà. Alors des fois certains n'apprécient pas, hein, je suis franc parce que j'ai dit que justement et honnête, donc je ne cache rarement la vérité à mes interlocuteurs. Donc par exemple, c'est ce qui nous avait rendu service aussi lors de l'entrevue avec Madame Najat Vallaud-Belkacem, où on lui avait exprimé clairement notre situation, et face à cet exposé très clair, elle avait dit mais c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser dans cette situation, Alors que malheureusement, aujourd'hui, les gens qui occupent des postes assez hauts, bien souvent, on leur cache la vérité, de peur de les froisser.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui?
Ah, alors là, je crois que je serais incapable de répondre à cette question, parce que le plus facile, ce serait de dire un politique pour faire avancer la situation actuelle, mais je ne voudrais en rien occuper leur place actuellement.
Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années?
Qu'est-ce que je me souhaite?
Oui.
Eh ben, de continuer à aimer ce que je fais, et c'est pas évident, car je l'ai constaté dès mon entrée dans l'enseignement. Ceux qui étaient proches de la retraite étaient assez aigris. Je le constate toujours aujourd'hui, et comme cette période va bientôt arriver pour moi, puisque je vais être à la retraite en 2024, j'espère avoir assez de motivation jusqu'au bout.
On a parlé de votre association, l'association des formateurs TIS Réseau National. Comment peut-on faire pour vous rejoindre ou pour vous aider? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu avant qu'on se sépare?
Alors, l'AFTRN, donc l'association des formateurs TIS, a été créée il y a une vingtaine d'années par un groupe justement de formateurs au numérique, en disant puisque nous sommes invisibles, on va essayer de créer une association. Mais à l'époque, on parlait des TIS et pas du numérique, donc le terme, on l'a conservé, puisque si on commençait à changer, voilà. Cette association est réservée uniquement au premier degré. Donc même s'il y a des formateurs au numérique dans le second degré, ils ne pourront pas nous rejoindre. Comme toute association, il y a une adhésion, et justement la nouvelle campagne d'adhésion est ouverte depuis hier. Donc il suffit de se connecter, de rechercher sur le site, et moyennant une adhésion de 10 euros, vous pouvez faire partie de notre association. Dans certains départements, il y a certains départements pionniers, qui ont déjà transformé les postes d'IREN en postes de conseiller pédagogique au numérique. Donc, eux, c'est fait, et c'est justement, on espère un jour que ça deviendra un modèle national, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est qu'un modèle départemental. Et donc, même si vous n'êtes pas IREN, mais conseiller pédagogique au numérique, vous pouvez faire partie de l'association, car il y a toujours à faire. Et nous avons décidé aussi, on a commencé en fin d'année 2020, et on va poursuivre dans cette optique, que d'aider aussi certains enseignants ou formateurs qui créent des outils ou qui créent des applications, à les aider financièrement. Car le plus souvent, s'ils le mettent gratuitement à disposition de la communauté éducative du numérique, c'est que c'est sur leur denier propre. Donc on a contacté un certain nombre d'enseignants ou de formateurs en fin d'année 2020 pour leur dire, voilà, l'association va financer ce que jusque-là tu mettais de ta poche. Donc ça les a grandement étonnés au départ, parce que bien évidemment, certains n'étaient même pas adhérents à l'association. Notre but, c'est pas ça. C'est justement de continuer à ce que ils ne s'interdisent pas certains projets, et que réparer aussi là une injustice. Je veux dire, alors que c'est les enseignants, c'est le métier d'enseignant, c'est souvent ça. On met de l'argent personnel dans nos projets, et donc là, dans le numérique, puisque l'association récolte des adhésions. Eh bien, on s'est dit, allez, on va aider un certain nombre d'enseignants à continuer à ce que ça soit gratuit. Et puis, s'ils ont un super projet, que le coût financier, hein, parce que bien évidemment, des fois, il y a des licences pour être dans certains stores qui coûtent un certain nombre, et là, ils se disent, non, Non, merci, je ne vais pas encore dépenser ça. Ou d'autres, vous l'avez dit, bah voilà, s'engagent, font des choses et achètent un micro, une caméra, etc. Bah, on leur a dit, bah, si tu as un projet et si tu veux te développer, bah, tu achètes et tu nous envoies la facture et nous, on la réglera.
Merci Christian de vous être rendu disponible pour Prof, etc.
Rien. Merci à vous pour cette idée très originale et qui, j'espère, fera connaître le rôle d'Iron à beaucoup de gens.
Oui, j'espère aussi. Je mettrai toutes les informations de l'AFTRN en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles et des commentaires depuis l'application Podcast sur iPhone ou iPad et sur iTunes depuis un ordinateur. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.